te remercier vraiment pour ta grâce envers nous, pour les soins que tu prends de nous, et nous voulons éclater en louanges pour magnifier et louer un tel Dieu qui ne sommeille ni ne dort, notre gardien, Père Céleste. Et nous te remercions de ce que dans ta grâce tu prends soin d'être aussi misérable que nous, Père Céleste. Nous n'avons rien fait, c'est uniquement parce que tu nous vois au travers de ton Fils Jésus-Christ, recouvert par sa justice, que nous pouvons nous tenir devant toi et que tu nous vois de façon agréable, Père Céleste. Oh oui, pour ce plan de salut que le Saint-Esprit nous a appliqué, Père Céleste, nous voulons encore te louer et te remercier ce matin. Merci vraiment de tout cœur pour tout ce que tu as fait pour nous, Père Céleste. Et aide-nous à répondre à tant d'amour par une foi renouvelée, par un engagement dans la vie concrète de chaque jour aussi. Mettre nos pas vraiment dans les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre prière et notre but, Père Céleste. Et pour ce matin, alors que nous allons écouter ta parole, nous te demandons aussi de nous bénir et de nous garder, de fortifier celui qui va nous apporter la parole de ta part, de préparer nos cœurs et nos esprits à écouter ta parole, dans le meilleur sens du terme, Père Céleste, sur une écoute oublieuse ou superficielle, mais une vraie écoute, Père Céleste, qui transforme et qui change nos vies. Nous te demandons tout cela dans le bon nom du Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 4 à 10. Ça sera le texte de la prédication de ce matin. 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Voilà donc le texte de la prédication de ce matin. Alors nous trouvons, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, plusieurs images qui nous parlent de l'Église. Et c'est ainsi que dans cette lecture, donc, nous la voyons parfois décrite comme étant une vigne. Et d'autres fois, lorsqu'il est question de cette Église, on en parle comme d'un troupeau qui est conduit par un berger. Il peut encore arriver qu'elle soit présentée comme une ville gouvernée par un roi, ou encore par une armée qui est commandée par un chef. Et dans le texte de ce matin, donc celui que nous venons de lire, il est question de l'Église en tant que maison, en tant que saint temple. Et l'allusion qui est ici faite au temple, et il y a certainement une référence particulière au temple de Jérusalem, cette référence, cette allusion n'est bien entendu valable qu'en tant qu'image, en tant que symbole d'une nouvelle réalité. Et cette réalité, c'est que cette demeure véritable de Dieu, dans laquelle Dieu habite maintenant, dans laquelle il manifeste directement sa présence, cette réalité, c'est que cette maison, c'est son peuple, c'est son Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont été appelés efficacement hors du monde en Jésus-Christ. Voilà donc ce Saint-Temple dont il est question, l'Église de Jésus-Christ. Et dans ce passage qui concerne donc l'Église, Jésus-Christ nous est présenté en tant que pierre. Une pierre qui a deux rôles distincts. Tout d'abord, Christ nous est présenté dans ce texte comme pierre principale, celle de l'angle de ce magnifique édifice. Et cette pierre supporte cet édifice, donc qui est l'Église, et en tant que support est un réel sujet de bénédiction pour ceux qui sont unis à lui dans cet édifice qui est l'Église. Ensuite, donc tout d'abord la pierre principale, et ensuite Christ nous est présenté comme une pierre d'achoppement, c'est-à-dire d'un obstacle, d'un sujet de malédiction sur lequel trébuche et tombe un grand nombre d'hommes. Alors ce que je vous propose ce matin, eh bien, c'est que nous considérions dans un premier temps Christ, tout d'abord en tant que pierre de l'angle, en tant que fondement de l'Église, et nous verrons ensuite Christ en tant que pierre d'achoppement. Et puis, dans un troisième temps, nous parlerons du nouveau statut de son peuple. Et le titre de la prédication de ce matin est celui-ci, un peuple nouveau. Et donc il y aura trois points, comme vous l'avez compris, Christ, pierre de l'angle, Christ, pierre d'achoppement ensuite, et enfin, troisièmement, un peuple renouvelé. Et tout d'abord, Christ, pierre de l'angle. Alors lorsqu'on lit ce texte, dans les versets 4 à 6, nous découvrons, sous la plume de Pierre, que celui-ci nous présente Jésus comme une pierre vivante, une pierre choisie, une pierre précieuse devant Dieu, une pierre angulaire, je le répète, sur laquelle se construit l'Église comme un édifice solide, inébranlable. Alors dans le domaine de la construction, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. Il faut savoir que la pierre angulaire ou la pierre d'angle, qui est située, bien comme son nom l'indique, à l'angle de deux murs d'un bâtiment, eh bien cette pierre est d'une grande importance. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle va permettre à ce bâtiment d'être solide. C'est par cette pierre angulaire que le bâtiment trouvera sa solidité. S'il n'y en a pas, ou si elle est mal posée, eh bien le bâtiment ne pourra pas tenir ou tiendra un certain temps, après quoi il commencera à s'effondrer, ou en tout cas il y aura des lézards sur les murs et il s'effondrera. Eh bien cette image de Christ en tant que pierre angulaire de son Église nous montre clairement que le fondement qui lui donne sa stabilité, donc à l'Église, ne se trouve ni dans un homme, ni dans un lieu géographique, mais au ciel, en Jésus-Christ, qui est assis dans la gloire à la droite du Père. Voilà où se trouve le fondement actuel, depuis toujours, de l'Église, en Jésus-Christ, à la droite de Dieu. Et voilà, ce matin, un premier encouragement. Un premier encouragement. L'Église, l'ensemble de tous les croyants, ou des croyants de tous les âges, se trouve spirituellement hors d'atteinte des assauts de l'ennemi. Pourquoi ? Parce que l'Église est protégée dans la présence même de Dieu. Voilà donc un premier encouragement. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre de l'opposition et des épreuves, que ce soit une opposition extérieure ou intérieure, parce que l'Église est à l'abri avec Christ en Dieu. Ça ne signifie pas que l'Église de Jésus-Christ ne peut pas être parfois secouée, bouleversée, mais elle ne tombe jamais, elle ne se brise pas, elle ne se détruit pas. Cette pierre angulaire qu'est Jésus-Christ nous est décrite par l'apôtre comme ayant été choisie par Dieu. Et le fait que Christ, pierre angulaire, ait été choisi par Dieu, rend cette pierre précieuse, c'est ce que dit Pierre d'ailleurs. De toute éternité, Dieu a déterminé qu'un édifice spirituel devait s'élever à sa gloire. Et de toute éternité donc, il a choisi son Fils unique et bien-aimé pour qu'il devienne le fondement de l'Église. Christ seul devait être ce fondement. Christ seul pouvait être ce fondement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a que lui qui pouvait accomplir le salut de son peuple. Et c'était la condition nécessaire pour faire du peuple de Dieu cet édifice glorieux pour Dieu. Il fallait d'abord qu'il soit sauvé, et seul Jésus-Christ pouvait sauver son peuple. Pourtant, comme vous le savez, bien que Jésus-Christ, Dieu fait homme, fut choisi et établi par Dieu pour cette merveilleuse tâche, eh bien les hommes l'ont rejeté. Les hommes ont rejeté Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que depuis la chute, il y a une profonde antipathie entre les pensées et les plans de Dieu et ceux de l'homme pécheur. Vous savez fort bien que ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu est toujours rejeté par l'homme pécheur. Toujours. Et ce que l'homme, quant à lui, estime comme ayant de la valeur, comme étant digne d'approbation, est toujours en horreur à l'Éternel. Il y a perpétuellement ce conflit. Et c'est la raison pour laquelle Christ, ayant été choisi comme pierre précieuse, utile pour être le fondement de l'Église, a été rejeté par l'homme. Et ce dont nous devons nous rappeler ce matin, chers frères et sœurs, c'est que ce qui est vrai de la pierre angulaire l'est aussi des autres pierres qui entrent dans la structure de l'édifice. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, il est question de Christ en tant que pierre vivante rejetée par les hommes, etc. Et ensuite, Pierre écrit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Si Christ, pierre choisie par Dieu, a été rejeté par les hommes, alors ne vous leurrez pas. Vous serez, vous aussi, rejetés par les hommes. Mais ce qu'il y a d'encourageant dans ce texte, c'est de penser que, de la même façon que Christ a été choisi par Dieu, de la même façon, en toute proportion gardée, il est Dieu lui-même, d'accord, la deuxième personne de la Trinité, mais de la même façon qu'il a été choisi par Dieu, vous avez été choisi par Dieu. Vous avez été mis à part. Vous avez été préparé et vous avez été placé dans un édifice. En préparant cette prédication, je pensais à un artisan. J'imaginais un vieil artisan. Aujourd'hui, on fait des murs en briques, ça va à toute vitesse. On met du ciment, on pose la brique, etc. Mais j'imaginais un vieil artisan qui construisait autrefois ses maisons en pierre de taille. Dans la ville d'où je viens, à Bordeaux, c'est une des villes, en France, elle est maintenant classée à l'UNESCO, c'est une des villes où il y a les plus beaux bâtiments du XVIIIe siècle, avec des pierres de taille, mais d'une épaisseur absolument incroyable. Et j'imaginais un artisan comme ça, qui est allé dans une pierrerie choisir ses pierres, qui les a travaillées, qui les connaît presque toutes, et qui les place parfaitement, avec amour, avec l'amour du travail bien fait, pour que le bâtiment soit présentable, soit beau, soit une œuvre d'art. Et c'est un peu la même notion. Vous avez été choisi, vous avez été préparé, et vous avez été placé dans cet édifice. Alors oui, Jésus-Christ a été éprouvé, c'est une certitude, et vous le serez aussi. Mais, encouragez-vous, vous êtes dans cet édifice, vous avez été choisi, vous avez été appelé, vous avez été préparé. Et c'est un sujet de grâce et de gloire que d'être, comme des pierres vivantes, dans cet édifice. Et c'est même un sujet de gloire que d'être dans cet édifice, comme pierres vivantes, et d'être rejeté par les hommes. Et vous comprendrez dans quelques instants pourquoi. Et lorsque cela vous arrivera, et peut-être cela vous arrive-t-il, ou cela vous est-il déjà arrivé, eh bien que le Seigneur vous accorde la grâce de réagir comme l'apôtre Paul, qui écrivait ceci. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et puis, lorsque peut-être vous serez au sujet au mépris de la part des hommes qui rejettent Dieu et qui vous rejettent par voie de conséquence, souvenez-vous d'une chose. C'est toujours Paul qui le disait aux Corinthiens. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais c'est ce que nous sommes, ni sages, ni puissants, ni nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde, pourquoi ? Pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Voilà en quoi vous pouvez vous appuyer. Peut-être êtes-vous faible, sans puissance, ni beaucoup de noblesse, mais Dieu vous a choisi, vous a mis dans son église, et Dieu vous a choisi pour confondre les choses fortes selon ce monde. Pierre choisie donc, et pierre vivante. Christ nous est décrit comme étant une pierre vivante. Christ, vous le savez, a pleinement la vie en lui. Et par voie de conséquence, ceux qui lui sont unis dans l'édifice qu'est l'Église, ceux qui sont posés sur lui, reçoivent et participent donc à cette vie. Et cette transmission de vie se fait par l'Esprit Saint, qui est répandu dans tous ses élus. L'Esprit Saint vivifie et unit chaque membre du corps aux autres membres. Et si nous sommes tous ici ce matin enfants de Dieu, Eh bien, nous avons tous le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et nous sommes par voie de conséquence unis les uns avec les autres. Et vous voyez très bien le lien qui est fait par voie de conséquence avec ce que nous avons vu la semaine dernière concernant l'amour fraternel. Nous sommes unis les uns avec les autres. Et c'est ainsi, comme l'écrit Paul encore dans une de ses épîtres, que sur Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève comme un temple saint dans le Seigneur. Bien coordonné, pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit permet cette union. J'ai pensé à une illustration pour vous aider à comprendre. Dans le tabernacle, les murs de la tente d'assignation étaient faits de planches de bois qui avaient été travaillées, décorées, peintes avec de l'or, si mes souvenirs sont bons. Et ces planches étaient mises les unes à côté des autres. Et au milieu de ces planches passait une tige métallique. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, ces planches représentent les chrétiens, les enfants de Dieu qui forment ce temple. Et cette tige métallique qui passait au milieu, eh bien, représentait le Saint-Esprit qui unit les chrétiens, qui fait du corps de Dieu un corps un et un corps vivant dans le Seigneur. Pierre choisie, pierre vivante. Et l'apôtre écrit enfin, concernant cette pierre angulaire, que celui qui croit en lui ne sera pas confondu. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là ? Eh bien, nous devons comprendre qu'aucune des pierres, bien assise sur le fondement, ne pourra être détachée de l'édifice qui repose entier sur Jésus-Christ. La fermeté de la pierre angulaire qu'est Christ est rassurante, car cette pierre n'est pas simplement inébranlable en elle-même, mais elle soutient à tout jamais ceux qui sont basés sur elle. Ainsi, nous pouvons être certains d'une chose, c'est que aucune pierre de l'édifice, aucune pierre de l'Église ne pourra jamais être ôtée, dès lors que c'est Dieu lui-même qui l'y a placée. Et dans ce sens, chers frères et sœurs, même si un jour tout appui humain vous est ôté, ou lorsque vous rencontrerez peut-être ici-bas le mépris ou la haine, ou si un jour la terre est ébranlée sur ses fondements et tombe en ruine, ou peut-être encore si le diable vous assaille par les doutes, eh bien, du fait de votre union à cette pierre angulaire qu'est Christ, vous ne serez jamais ébranlé. Vous serez trouvé plus que vainqueur en celui qui vous a aimé, parce que personne ne peut vous arracher de l'Église. Personne ne peut vous arracher au fondement sur lequel vous avez été posé, qui est Jésus-Christ. Rappelez-vous dans ce sens que Christ lui-même a dit ceci, c'est que personne ne pourra arracher un enfant de Dieu de la main de son Père. Personne ne pourra nous arracher de la main de notre Père céleste. Personne ne pourra nous arracher en tant que pierre vivante de l'édifice dans lequel nous nous trouvons. Alors ne craignons pas, face à tous les troubles du monde dans lequel nous nous trouvons, face à toutes les épreuves qui peuvent nous arriver, face à tous les soutiens qui peuvent peut-être à un moment donné disparaître, nous être enlevés, nous avons été choisis, appelés, préparés, placés dans cet édifice qu'est l'Église. Notre sécurité est là. Nous sommes posés sur ce fondement qu'est Jésus-Christ. Et nous avons la vie qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Nous sommes protégés, gardés par lui. Donc Christ, tout d'abord, pierre de l'angle. Christ, ensuite, pierre d'achoppement. Alors, à contrario de ce que je viens de dire, Christ, pierre d'angle, il nous est présenté, au verset 7, aussi, comme étant une pierre d'achoppement, comme étant un rocher de scandale. J'aimerais vous rappeler quelque chose par rapport à cela, quelques versets. Dans les évangiles, Siméon, ce vieil homme qui attendait la venue du Messie en Israël, lorsqu'il reçut cette grâce de voir Jésus-Christ, bébé, et lorsqu'il embrassa Christ en tant qu'enfant, déclara ceci. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et dans le même sens, Paul écrivit aux Romains et aux Corinthiens. Aux Romains tout d'abord, chapitre 9, verset 33. Selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. » 1 Corinthiens 1, 23. « Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Alors qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport à Christ, concernant Christ, pierre d'achoppement? Eh bien, la plupart des Juifs, du temps de Jésus et de Paul, principalement les pharisiens, les docteurs de la loi et les scribes, ne pouvaient accepter l'idée d'un Messie crucifié. C'était pour eux un scandale. Parce que selon leur interprétation des Écritures, le Messie devait venir avec puissance, avec splendeur, et établir un royaume et un trône terrestre à la gloire d'Israël. Alors ce roi ne pouvait donc être un crucifié, car selon la loi, celui qui était pendu au bois était un maudit. Ce ne pouvait être le Messie d'Israël. Qui plus est, ces Juifs plaçaient leur fierté dans leur stricte observance de la loi. Et ils ne pouvaient donc accepter que cette observance soit déclarée comme non valable, comme de la boue, pour leur justification. Et ils ne pouvaient par voie de conséquence pas accepter qu'il leur fallait reconnaître leur misère, eux qui s'estimaient justes. Et qu'il leur fallait ensuite placer leur foi dans cet individu qui venait d'être crucifié et qui était un maudit à leurs yeux. Disons enfin que le fait de savoir que Christ était venu pour sauver des Juifs et des non-Juifs, pour faire des deux un seul corps, était pour eux un objet de scandale. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter les païens. Il y avait une haine profonde de la part de ces Juifs à l'égard des païens, et ils avaient un orgueil incroyable concernant le peuple d'Israël. Ainsi donc, celui que le Père avait élu et manifesté au monde comme étant la pierre de l'angle, le fondement de l'édifice spirituel, fut méprisé, rejeté, considéré comme étant impropre à supporter cet édifice, et cela non seulement par la multitude ignorante du peuple, mais surtout par ceux qui bâtissaient, nous dit Pierre, par ceux qui prétendaient posséder le seul talent possible pour pouvoir édifier, c'est-à-dire les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens, ceux-là même qui auraient dû reconnaître en Jésus-Christ le Messie et le recevoir selon son rang et son honneur en tant que Dieu sauveur, eh bien l'ont rejeté et méprisé en tant que pierre de l'angle. Et cela ne doit pas nous étonner, chers frères et sœurs, parce que non seulement nous constatons depuis des millénaires que les grands de ce monde et les habiles politiques ne font point entrer Jésus dans leur édifice, mais parfois, même ceux qui prétendent édifier l'Église de Jésus-Christ, bien qu'ils se servent de son nom, le rejettent trop souvent sa personne et son règne. C'est une réalité. Et nous n'avons pas à nous leurrer. Il peut y avoir beaucoup de talent de la part de certaines personnes qui se disent conducteurs, de certains hommes qui se disent conducteurs de Dieu, il peut y avoir beaucoup de connaissances des Écritures, et en même temps un réel rejet, une haine vis-à-vis de Jésus-Christ. Et à ce propos, j'aimerais vous donner un exemple que j'ai entendu pas plus tard que vendredi soir. J'étais avec 4 jeunes que je suis depuis des années, ils étaient avec moi dans les camps en tant qu'adolescents, maintenant ce sont des hommes, on était ensemble vendredi soir pour une soirée. Et lors de cette soirée, on a discuté de choses et d'autres, et ils participent tous à un groupe biblique universitaire. Et dans ce groupe biblique universitaire, le responsable est un avocat, homme brillant, cultivé s'il en est. Et lors d'une discussion avec un de ces jeunes hommes, eh bien, ce jeune en question lui a dit à propos de l'Écriture qu'il croyait en l'infaillibilité de l'Écriture. L'avocat lui a dit « Mais tu es complètement malade ». Mais la parole de Dieu est bourrée d'erreurs, de fautes, que ce soit des fautes historiques, théologiques, etc. Et ce jeune a continué la discussion et il lui a dit que pour lui, il n'y avait de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Et que lui a répondu ce responsable, cet avocat brillant, « Mais s'il y a de tels individus aujourd'hui en Suisse, c'est pas étonnant qu'il y ait des guerres depuis des années, et c'est pas étonnant qu'il y ait une opposition dans le cadre du christianisme. C'est une folie que de croire que Jésus-Christ est le seul et unique sauveur. » voilà un homme brillant, imposant, peut-être de par sa facilité à parler, de par le poste qu'il occupe, et qui rejette dans un groupe biblique universitaire Jésus-Christ. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, vous le comprenez bien. Alors cela ne doit toutefois pas nous inquiéter, parce que l'Écriture nous rassure, et Pierre nous rassure, les desseins de tous ceux qui rejettent Christ ont toujours été confondus, et le seront. C'est ce qu'il déclare, c'est ce que déclare l'apôtre lorsqu'il écrit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Ces hommes de loi, pharisiens, scribes, sadducéens et autres, crucifièrent Jésus-Christ. Mais, et vous le savez, par sa résurrection, Christ brisa la puissance de la mort. Et tout de suite après sa mort, nous le voyons triomphant auprès de ses disciples. Et il s'approche de ses deux disciples qui retournent à Emmaüs, tristes, ne comprenant pas ce qui est arrivé. Et il leur dit à un moment donné, dans la discussion qu'il a avec eux, ne fallait-il pas que le Christ souffrît et qu'il entrât dans sa gloire ? On peut rejeter Jésus-Christ. Ceux qui sont appelés hommes de Dieu peuvent le rejeter. Il n'en demeure pas moins que Christ est ressuscité et dans la gloire. Et nous pouvons dire aujourd'hui, mais quelle misère ! Et quelle ruine pour ces incrédules. La pierre de l'angle qui aurait pu soutenir ces hommes au-dessus de l'abîme de perdition devient pour eux une pierre d'achoppement et de chute. En rejetant le seul salut possible, ces incrédules ajoutent ce péché aux nombreux autres péchés qu'ils ont déjà commis et qui les condamnaient. Et en ajoutant ce péché à ces nombreux autres péchés, ils rendent leur ruine d'autant plus certaine. On peut dire, comme l'a écrit quelqu'un, que pour leur malheur, ces hommes convertirent en mort éternelle le moyen même qui devait leur donner la vie. Voilà donc en quoi Jésus-Christ est une pierre d'achoppement. Voilà en quoi ces hommes trébuchèrent. Et voilà en quoi, aujourd'hui, ou comment, beaucoup trébuchent sur Jésus-Christ. Ils refusent de comprendre. Ils refusent de recevoir les grandes vérités de la parole concernant le Sauveur. Dans leur orgueil, ils méprisent et tiennent pour folie lorsque l'Écriture présente Christ comme Sauveur. Et chers frères et sœurs, nous devons savoir que un grand nombre d'hommes, de femmes, de jeunes, qui passeront un jour devant l'Éternel, lorsqu'il reviendra, lorsque Christ reviendra, eh bien, un grand nombre donc désireront à ce jour-là n'avoir jamais entendu l'Évangile de grâce. Car pour eux, son rejet, leur rejet de cet évangile, aggravera leur misère éternelle. Ceux qui auront été confrontés à l'évangile et qui l'auront rejeté, ceux qui l'auront clairement entendu, ceux qui auront peut-être fréquenté des églises, qui auront été dans des familles chrétiennes pendant des années, mais qui n'en auront pas voulu ce jour-là, ils regretteront amèrement d'avoir entendu l'évangile, parce qu'ils seront jugés bien plus sévèrement que ceux qui ne l'auront jamais entendu. Ils seront eux aussi jugés, mais moins sévèrement. Et je prie que tel ne soit pas le cas pour l'un d'entre nous. Christ, donc pierre de l'angle, Christ, pierre d'achoppement, et enfin, troisième point, un peuple renouvelé. C'est toujours pour le chrétien un sujet de consolation et d'instruction que de savoir qui il est et quels sont ses privilèges. Et on voit d'ailleurs dans cet épître que très souvent, Pierre y revient. Et il revient à cela, il réexplique aux chrétiens qui ils sont et quels sont leurs privilèges pour deux raisons. La première, c'est qu'il veut que ses frères et sœurs se souviennent de leur haute dignité en Jésus-Christ. Et qu'ils trouvent dans cette dignité qui est la leur un motif de courage et de consolation au sein de leurs épreuves. Et vous savez que les destinataires de cet épître étaient particulièrement éprouvés à cause de leur foi et du fait aussi qu'ils étaient loin de leur terre. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison est celle-ci. C'est qu'il veut les exhorter à vivre d'une manière conforme à la condition, à la dignité qui est la leur, en Jésus-Christ. Et cette condition, dans ce passage, est celle-ci. C'est que ces chrétiens sont redevenus prophètes, prêtres et rois. Je répète, c'est qu'ils sont redevenus prophète, prêtre et roi. À l'origine, au commencement, l'homme, créé en image de Dieu, était prophète, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'il avait une parfaite connaissance de Dieu et de son plan, et il était capable de la révéler, comme on le voit en Genèse 2, lorsque il donne des noms aux animaux. Ce n'était pas simplement le fait de donner un nom, girafe, caméléon, aux animaux, mais c'était le fait de comprendre profondément le sens de la création de Dieu, de la volonté de Dieu. Prophète, donc. Il était prêtre aussi, parce qu'il avait une parfaite justice. Parce qu'il avait un accès permanent dans la présence de Dieu. Et il était roi. Pourquoi ? Parce qu'il avait une parfaite domination sur la terre. Mais suite à la désobéissance que nous découvrons en Genèse 3, toute l'humanité a sombré dans le péché. Et c'est ainsi que de prophète, l'homme est devenu ignorant. C'est ainsi que de prêtre, il est devenu coupable et s'est coupé volontairement de la présence de Dieu. C'est ainsi que de roi, il est devenu simple esclave. Mais en Jésus-Christ, la pierre de l'angle, Jésus-Christ, qui n'a pas seulement rempli ses trois offices parfaitement, mais qui les a aussi unis dans sa personne et dans son œuvre, puisque Christ est le prophète, le prêtre et le roi par excellence, eh bien, en Christ, prophète, prêtre et roi par excellence, son peuple a retrouvé ses trois offices saints. Selon ce que nous écrit Pierre. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous demander où est-ce que je suis en train d'aller. Je vais vous expliquer. L'office de prêtre, elle nous est présentée au verset 5 et au verset 9, lorsque Pierre écrit ceci. Et vous-même édifiez-vous pour former un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Et un petit peu plus loin, il écrit, « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Alors, vous n'êtes pas sans savoir que par la mort de Jésus-Christ, seul sacrifice efficace d'expiation, Dieu a réconcilié pour toujours avec lui-même tous ceux qui croient. Par ce sacrifice de Jésus-Christ, Dieu a renversé ce mur de séparation élevé par le péché. Et c'est ainsi que tous ceux qui croient ont un accès auprès du Père, dans un même esprit. Et c'est d'ailleurs ce qui a été figuré lorsque le voile du temple à la mort de Christ a été déchiré, de haut en bas. Jusque-là, le voile fermait l'accès au lieu très saint. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui, une fois par an, pouvait rentrer derrière le voile et donc déposer le sang sur le propitiatoire. C'était le jour du grand pardon, c'était le Yom Kippour, donc pour le pardon du peuple d'Israël, des péchés du peuple et même du souverain sacrificateur. Mais désormais, par l'œuvre de Jésus-Christ, ce sanctuaire est accessible. Ce sanctuaire est accessible à tous ceux pour qui Christ a versé son sang. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit ceci. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Et nous pouvons dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la dignité de sacrificateur. Nous sommes admis dans la présence de Dieu pour lui apporter nos sacrifices. Jean, quand il écrit le livre de l'Apocalypse, écrit ceci au début. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À l'époque, dans l'Ancien Testament, la sacrificature était sainte, c'est-à-dire qu'elle était mise à part pour Dieu. Et nous voyons que la sainteté de cette sacrificature se démontrait par diverses cérémonies. Il y avait l'onction d'huile sur Aaron et sur les Lévites, enfin tous les sacrificateurs. Il y avait les rites de purification des Lévites, des sacrificateurs dans le temple. Il y avait des vêtements de fin lin. Eh bien, aujourd'hui, cette sainteté de notre service en tant que sacrificateur est toujours là. Alors, nous n'avons pas été oints d'huile, mais oints du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de nous laver dans la cuve prévue à cet effet, comme c'était dans le temple ou le tabernacle, mais nous avons été purifiés par le sang de Christ. Nous n'avons plus de vêtements de fin lin, mais nous sommes revêtus de la parfaite justice de Jésus-Christ. Toutefois, si nous parlons de sacrificateur, eh bien, il n'y a jamais de sacrificature sans sacrifice. Alors la question est celle-ci, mais quelle victime devons-nous offrir aujourd'hui en tant que sacrificateur. On pourrait dire beaucoup de choses. Mais le sacrifice par excellence que nous devons offrir à Dieu, c'est nous-mêmes. Romains 12, 1. Nous devons, comme l'écrit Paul, nous offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part, écrit-il, un culte raisonnable. Mais cela implique que nous devons nous offrir comme on offrait autrefois un animal dans le temple ou dans le tabernacle. Lorsque l'animal était offert, il était offert entièrement. Et Christ lui-même, quand il s'est donné pour nous, il s'est donné sans réserve aucune. Et nous devons donc, sans calcul, donner toute notre personne, donner notre cœur, donner notre vie, donner tout ce que Dieu nous accorde. Et c'est ainsi, chers frères et sœurs, que nos corps qui obéissaient autrefois au péché ne doivent plus y obéir. Et c'est ainsi que nous devons nous adonner à une vie de sainteté qui désire dans tous les domaines plaire à Dieu. Puisque la grâce de Dieu, et je reviens sur ce que je disais au début, nous a intégrés à son peuple en tant que pierre vivante, alors ne vivons pas comme si nous ne faisions pas partie de cet édifice qu'est l'Église. Si nous vivons ainsi, si nous vivons comme des païens, comme ceux du dehors, comme n'étant pas des pierres vivantes, alors revenons vite à Dieu. Et avec son secours et sa grâce, consacrons-nous à nouveau. Et ne nous laissons pas mettre dans le moule des gens de ce monde. Efforçons-nous au contraire de plaire à Dieu. Et si nous vivons nos vies, nos paroles, nos pensées, nos œuvres, vraiment pour la gloire de Dieu, alors n'oublions pas que nous devons les placer devant notre Sauveur, que nous devons les pratiquer en son nom. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui les présente à son Père. Nos œuvres en elles-mêmes n'ont aucune valeur. Mais lorsqu'elles sont faites au nom de notre Sauveur et Seigneur, eh bien lui les sanctifie et les présente au Père. Parce que Jésus est le seul en qui Dieu prend son bon plaisir. Et s'il nous considère aujourd'hui, il ne nous considère qu'au travers de lui. Donc une office de prêtre qui est retrouvée. Une office royale aussi, nous dit Pierre. Vous êtes un sacerdoce royal. En tant que chrétiens, nous sommes rois. Et nous avons en Christ la victoire en tant que roi. La victoire sur les dominations spirituelles, les dominations des ténèbres, les démons qui obéissent à Satan. Mais aussi la victoire sur les convoitises de nos cœurs. Nous qui étions autrefois esclaves de Satan, de la mort et du péché, nous sommes aujourd'hui élevés par Dieu en Jésus-Christ à une vraie liberté royale. Voilà une réalité. Alors c'est vrai que cette dignité et ce sacerdoce royal ne seront parfaits que lorsque nous recevrons la couronne immortelle qui nous sera donnée lorsque Christ reviendra. Ça, c'est une réalité. Mais ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a nulle part dans le monde d'être aussi noble que les chrétiens. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Jésus-Christ, le roi des rois, est en chacun d'eux. Alors si nous avons trouvé ou retrouvé ce statut royal qui était le nôtre au commencement, celui de vice-roi de la création, eh bien vivons cet office aujourd'hui dans nos vies. Si nous sommes vraiment rois quant au péché, eh bien souvenons-nous qu'en vertu de l'œuvre de Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous sa domination et que nous avons à nous considérer comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Il n'y a plus de raison de nous soumettre à lui. Par rapport à la justice, vous savez que le roi était le représentant de la justice. Eh bien, recherchons cette justice en toutes choses, dans tous les domaines, familial, professionnel, ecclésial. Peut-être politique. Rappelez-vous cette prière du roi Salomon, jeune roi. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu ? Il demande à Dieu qu'il lui accorde un cœur attentif pour gouverner son peuple. Un cœur attentif pour discerner le bien du mal. En tant que roi, recherchons aussi cette justice dans tous les domaines, là où nous sommes impliqués. Et je dirais enfin, en tant que roi, mettons également en œuvre le mandat culturel que Dieu nous a donné et par lequel il nous invite, par le moyen du travail, à développer, en fonction des dons qu'il nous a donnés aux uns et aux autres, l'extraordinaire potentiel de la création. Dieu a donné cette création à l'homme, vice, roi, gérant de cette création, afin qu'il fasse prospérer dans tous les domaines, pratiques, scientifiques, artistiques, cette création pour la seule gloire de Dieu. Voilà notre tâche aussi aujourd'hui, notre implication pratique. Quelqu'un a écrit ceci dans ce sens-là. Notre vocation divine nous empoigne. Qu'elle soit celle d'un pasteur, d'un artisan, d'un paysan, d'une infirmière, d'un ingénieur, d'un ouvrier ou d'un artiste, c'est par lui, le Christ, roi des rois, et pour lui que nous devons prier, obéir, tenir en main la bêche, le marteau, l'aiguille, le livre, le pinceau, la manette, la calculatrice, bref, l'instrument de notre travail culturel, quel qu'il soit. Le monde nous est le champ ou la carrière ou le terrain où nous avons à œuvrer pour le Christ roi, nous qui sommes ses vice-rois. Alors que Dieu nous accorde, là où nous sommes placés par Dieu, vraiment de vivre cet office royal qui est la nôtre. Et je finis par l'office prophétique et je conclurai ainsi. Pierre y fait référence finalement lorsqu'il écrit « Vous êtes un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, afin d'annoncer ses vertus. » Ce qui caractérisait les prophètes dans l'Ancien Testament, c'est qu'ils recevaient la révélation de Dieu et qu'ils la faisaient connaître au peuple d'Israël afin de rappeler ce peuple à Dieu. Eh bien voilà notre responsabilité aujourd'hui. La raison de notre élection et de notre salut, c'est que par nos paroles et nos actes, nous fassions connaître à ce monde qui se perd les vertus de notre Dieu. Ces perfections divines doivent être annoncées et doivent se refléter par nos voix et surtout par nos vies. Il faut, si je peux me permettre cette image, que ce monde sans Dieu puisse remonter en quelque sorte du ruisseau jusqu'à la source en nous regardant. En écoutant nos paroles et en nous voyant vivre, il faut qu'ils se disent « Mais d'où vient la vie qui est la leur ?» Alors que le Seigneur nous accorde d'annoncer courageusement aux perdus l'état de ténèbres dans lequel se trouvent plongées leurs âmes qui sont éloignées de Dieu. Qu'il nous accorde de leur révéler par notre témoignage les vertus et attributs qui caractérisent, qui le caractérisent. Et comment il les appelle à passer des ténèbres à sa lumière au moyen de la repentance et de la foi. Chers frères et sœurs, que nos vies entières, là où nous sommes placés, soient une prédication de la puissance, de la miséricorde et de la sainteté de ce Dieu qui nous a appelés à lui. Nous, comme l'écrit Pierre, qui n'étions autrefois pas un peuple, mais qui maintenant sommes le peuple de Dieu. Nous à qui il n'avait pas été fait miséricorde, mais à qui maintenant il a été fait miséricorde. Cette dernière parole du verset 10, dans ce texte que nous voyons ce matin, ou combien cette parole du verset 10 est vraie en ce qui nous concerne. Et combien elle devrait nous émouvoir. Nos ancêtres, la famille Berdoula, ou Moquet, c'est le nom de ma mère, enfin le nom de jeune fille de ma mère, et vos familles, françaises, suisses, espagnoles, italiennes, que sais-je. Beaucoup des membres de nos familles étaient autrefois des païens. Et maintenant, nous appartenons par naissance spirituelle à un peuple racheté. Nous avons été par grâce placés comme des pierres vivantes dans ce merveilleux édifice qu'est l'Église à la gloire de notre Dieu. Nous n'en serons jamais arrachés. Nous y recevons la vie avec abondance. L'Église est protégée dans la présence de Dieu au ciel. Nous avons en Jésus-Christ, retrouver ces trois offices qui étaient les nôtres au commencement. Nous sommes une nation de sacrificateurs, de rois et de prophètes, alors que Dieu nous accorde, dans sa grâce, de vivre cela journellement. De ne pas baisser la tête, de ne pas nous courber, mais au contraire de nous redresser à la gloire de Dieu et de vivre simplement là où nous sommes placés, fidèlement dans ce monde et dans notre Église, ce que nous sommes. Amen. Ô Éternel, notre Dieu, Nous te rendons grâce ce matin encore pour ce fondement stable, solide, inébranlable, cette pierre choisie, précieuse, pierre de l'angle qui est Jésus-Christ. Et j'aimerais ce matin te rendre grâce, te dire merci pour toutes les autres pierres que tu as mises à mes côtés, à nos côtés, dans ce monde, mais aussi dans cette Église. Petite, limitée, bien faible, mais néanmoins vivante. Si nous pensions à un château éternel, peut-être serions-nous une partie du mur, d'une tour. Merci pour tous mes frères et sœurs ici présents et pour tous ceux qui sont absents. Merci parce que tu nous as donné ton esprit, qui nous unit les uns aux autres. Merci éternel parce que tu en as donné qui sont faibles et d'autres qui sont forts. Tu en as donné qui te connaissent, qui connaissent ta parole, et d'autres qui sont des enfants dans la foi, qui apprennent. Tu as donné des jeunes et des plus vieux. Toutes les générations sont représentées. Et tu nous as appelés, tu nous appelles à vivre en communion les uns avec les autres, et surtout en communion avec toi, personnellement, mais aussi en Église. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie et nous te prions ensemble afin que nous vivions réellement, profondément, Seigneur, cette vie d'Église. Que, Seigneur, nous ne vivions pas comme si nous n'en faisions pas partie, car nous en faisons partie, et que cela soit une réalité. Ô Éternel, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, nous te prions afin que tu agisses dans nos vies, pour que, Seigneur, cette relation intime de communion les uns avec les autres se voit. Et comme il a été dit tout à l'heure, qu'ainsi ceux du dehors puissent, Seigneur, revenir jusqu'à la source et te connaître. Que nous puissions, comme nous l'avons entendu la semaine dernière, vraiment nous aimer les uns les autres et être ainsi un témoignage à ta gloire. Nous devons constater que nous n'en sommes pas capables en nous-mêmes. Nous devons constater que souvent l'égoïsme éternel prend le dessus. Nous en avons des fois l'envie, mais tellement d'incapacité. Eh bien, nous crions à toi afin que tu nous soutiennes, nous secours et nous donnes de vivre réellement cet état de fait. Ô Éternel, glorifie-toi, glorifie ton nom dans ton Église de façon générale et dans notre Église aussi de façon particulière. Et ce matin, nous te présentons donc tous ceux qui ne sont pas parmi nous pour différentes raisons, Seigneur, et peut-être de maladie pour certains d'entre eux. Viens à leur secours. Que les plus faibles, les plus éprouvés soient profondément encouragés, renouvelés et soutenus de ta droite toute puissante. Et nous te remettons cette semaine avec nos tâches diverses, éternelles, multiples, éternelles, peut-être les épreuves qui nous attendront. Nous nous remettons entre tes mains, te demandant vraiment que nous puissions les vivre avec toi, Seigneur, vivre cette semaine à ta gloire et déjà cette journée que tu mets à part pour toi et pour ta gloire, notre Dieu. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.